phrase ou un chose comme ça, surtout quand on raconte dans les classes, hein, avec les enfants. J'aime bien de temps en temps leur jouer un petit air, mais enfin vraiment, moins que rien. Hein, moins que rien.
Ça se passe pour l'association. Est-ce que vous allez dans quels endroits vous allez et qu'est-ce que vous y faites? Comment ça s'organise cette vie avec Paroles des Merveilles?
Alors dans notre association, nous sommes 26 conteurs. Hein. Alors je dis conteur, mais je devrais dire conteuse parce que nous n'avons qu'un homme, le pauvre. Mais enfin, il est là. Bon, d'ailleurs, il est d'accord pour qu'on dise conteuse. Hein. On lui a dit, écoute, tu es tout seul. Il a dit, bah, écoute, tu es conteuse, ça m'est égal. Bon, donc, nous sommes 26 conteuses. Et chacune a un petit peu, si je puis dire, une spécificité. Il y en a qui aiment les tout-petits, il y en a qui aiment les maisons de retraite, il y en a qui aiment les hôpitaux, enfin, ça dépend, voilà. Donc, chacune va un petit peu là où elle se sent le mieux pour compter. Nous comptons de la crèche à la maison de retraite en passant par les bibliothèques, les primaires, les collèges, les lycées, les hôpitaux. On va partout où on nous demande. Et comme je vous dis, quelques-unes vont à un endroit, quelques-unes vont à d'autres. Voilà. Moi, les tout petits, j'ai beaucoup raconté, donc je n'ai plus envie de le faire. En plus, ça demande énormément de travail, beaucoup plus de travail que d'aller raconter une soirée à des adultes, beaucoup plus, parce qu'il faut avoir des objets, il faut savoir les utiliser, c'est très compliqué. Les primaires, c'est merveilleux parce que les enfants ouvrent des yeux immenses et vous écoutent extraordinairement. Et puis après, il y a les maisons de retraite, c'est pas toujours gai, mais on y va. Hein, et il y en a qui vont très volontiers, même parce qu'en plus on connaît les gens, à force d'y aller, on leur dit bonjour, on connaît leur prénom. Donc, des fois, on les mêle même à un conte, hein, on dit leur nom dans un conte et ça leur fait plaisir, quoi. Voilà. Donc, ça. Et puis, moi, je vais depuis 10 ans maintenant dans un centre de soins palliatifs. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la maison de Gardanne, vous ne connaissez pas ça. C'est un centre où les gens viennent pour mourir, hein, puisque c'est un centre de soins palliatifs. Et donc, nous comptons là depuis 10 ans. Hein. Et c'est toujours un plaisir d'y aller, surtout quand ils nous voient arriver, ils sont toujours contents. Alors, moi, personnellement, j'attache beaucoup de soins à ma toilette quand j'y vais, parce que je veux qu'ils me trouvent belle, quoi. Quand j'y vais, je veux qu'ils me disent, oh, aujourd'hui, tu as fait des efforts, tu as mis une belle robe, ou tu t'es bien coiffée, enfin, etc. Voilà, j'aime bien ça. Et j'aime bien leur faire honneur comme ça. Chez nous en Corse, quand on veut aller chez quelqu'un d'important, on lui fait honneur en s'habillant. Enfin, voilà. Donc, c'est mon point de vue, hein, mais c'est pas le point de vue de tout le monde. Je crois que j'ai répondu là, à votre question. Hein.
Et du coup, je me demandais, pour vous, quel est le ou les publics les plus difficiles ? Vous parliez c'était compliqué les tout petits en maternelle. C'est eux le public le plus difficile pour vous ?
Pour moi, non, c'est peut-être pas, c'est pas un public difficile, c'est pas ça que je veux dire. C'est un public qui demande beaucoup d'attention, parce qu'ils sont tout petits, n'ont pas encore la parole, donc il faut savoir leur parler, hein, ça se fait pas comme ça, hein, tout petit. Il faut savoir capter leur attention, parce qu'ils sont distraits par toutes sortes de choses, hein. Ils sont tous dans leur petit, comment on appelle ça maintenant, des baby relax, c'est comme ça qu'on les appelle. Avant, on appelait ça comme ça, les fauteuils des enfants, là, les petits fauteuils. Ils sont tous là-dedans. Et nous avons une vieille conteuse qui s'appelle Colette, qui a 95 ans en ce moment. Elle disait toujours, je fais tomber les sucettes. Donc, il faut que l'enfant, il faut qu'il soit capté par ce qu'on dit. Hein. Alors, il faut lui faire voir quelques objets, mais pas trop non plus. Parce qu'il faut qu'il écoute ce qu'on dit. Il ne faut pas seulement jouer des mains. Alors, on joue beaucoup avec les petites marionnettes, les doigts, là. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, qu'on met aux doigts. Donc, on joue beaucoup avec ça. Et puis, on leur fait toucher des tissus, du carton, du papier pour qu'ils aient la sensation. Et on leur fait des fois goûter un peu le sel pour qu'ils sachent ce que c'est que le sel. Quand on parle du sel dans un conte, qu'ils sachent ce que c'est. Voilà, donc c'est ça qui demande beaucoup de travail, parce qu'il faut préparer ça d'avance. Il ne faut pas faire un couac, parce que les tout-petits le voient tout de suite. Puis si vous retournez, que vous racontez le même conte et que ce n'est pas ça, ils commencent à s'agiter sur leur fauteuil, parce qu'ils comprennent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ils sont extrêmement attentifs. Voilà, alors, pour moi, c'est ça qui est difficile. Ce n'est pas de capter l'attention, c'est plutôt de savoir comment les aborder, comment les intéresser à une histoire qui n'en est pas une, parce que quand il y a une histoire de lapin ou de le lapin qui veut pas manger ses carottes ou des trucs comme ça, il faut savoir le dire.
Et ce que vous faites aussi d'un peu plus particulier, ce sont des balades contées dans l'association. Oui. Est-ce que au niveau du rapport au spectateur, ça vous semble différent, pardon ? Et puis le rapport au lieu aussi, est-ce que les contes changent par rapport au lieu dans lesquels vous comptez ?
Alors, nous faisons non seulement des balades contées, mais on fait aussi des thés contés. On fait des thés comptés, on les fait une fois par trimestre, et une fois par trimestre, on fait une balade comptée. Mais vous savez, les collines de Marseille ne manquent pas d'attrait pour attirer les gens. Hein. Nous avons toujours beaucoup de monde. Alors, ça dépend où on va. Quelquefois, il y a beaucoup de contes sur les calanques, donc on peut raconter des contes sur les calanques. On a raconté des contes sur l'eau, parce qu'on était dans un lieu où il y avait une petite rivière, donc on parlait de contes sur l'eau. Mais le lieu importe peu. Ce qui compte, c'est les gens qui vous écoutent. Et puis vous-même, quoi, être en forme pour raconter. Et puis... ne pas vous embrouiller dans vos contes, parce que là aussi, quand on a beaucoup de contes dans la tête, une fois, moi, je comptais dans l'hôpital avec une copine, elle s'est trompée de conte, elle a commencé un conte, puis elle est partie sur un autre, elle s'est retrouvée à la fin avec un chat, un chien, un cheval, enfin, elle ne sait plus comment s'en sortir. Donc, il faut faire attention à ça, il ne faut pas mélanger les contes. Mais à part ça, que ce soit dehors ou dedans, on compte, quoi, non. Puis c'est agréable de compter dehors. Très agréable. On a fait beaucoup de contes sur les arbres, sur l'eau, sur le printemps, sur les fleurs, parce qu'il y a énormément de sujets. Et puis dans l'été conté, on a fait la mort, l'argent, je ne sais plus quoi. Enfin, toutes les fois, on a un sujet différent. Je crois que notre prochain sujet, ça sera les monstres. Tous les monstres dans les contes, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Alors voilà, on travaille là-dessus. Hein. On travaille toujours sur un thème. D'ailleurs, une fois par mois, on travaille sur un thème précis, parce qu'on sait qu'on va nous le demander. Là, Noël, évidemment, tous les contes de Noël y ont passé, une fois de plus. Une fois de plus. Et puis après, c'est les contes de la Chandeleur. Et puis après, c'est les contes de Pâques. Enfin, voilà. Donc, on s'adapte à la saison. Les contes d'hiver, bien sûr, il y en a beaucoup. Hein. Tous les contes du Grand Nord, tout ça, il y a des contes magnifiques, là aussi. Hein, voilà. Donc, bon, là, on s'adapte toujours. Hein.
Principe actif par principe. une rediff.
En tout cas, merci Julia Morandi Serra de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui à Marseille. On va se permettre pour se quitter de vous demander de si vous le voulez bien nous offrir un conte pour écouter un peu ce que vous proposez et puis se quitter avec des mots doux si ça vous va.
Très bien. Eh bien, moi, vous savez, je suis une accro du désert. J'y vais souvent, j'y suis allée beaucoup, maintenant j'y vais moins évidemment, mais j'y suis allée de nombreuses fois. Et cette fois-là, lorsque j'y suis allée, j'ai des amis qui m'avaient dit « Est-ce que tu as remarqué que le matin très tôt dans le désert, tout est bleu ?»« Ah bon, je dis, j'ai jamais vu ça, pourtant j'y suis allée plus d'une fois. » »« Eh bien écoute, cette fois-ci, essaye de voir et tu nous diras. » Alors me voici dans le désert, comme je suis allée si souvent, et ce matin-là, je me suis levée très tôt, avant que le soleil ne se lève. Je suis sortie de ma tente sans faire de bruit, et je me suis mise sur une dune. Et là, j'ai vu que tout le désert était bleu, comme un champ de lavande, comme la mer. Mais est-ce possible? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai pris une poignée de sable dans la main, et j'ai regardé. Et j'ai vu des milliers, des milliards de toutes petites fleurs bleues, minuscules, pas plus grosses que la tête d'une épingle. Et lorsque le soleil apparaît, tout disparaît. J'étais là, surprise, lorsque, du fond du désert, j'ai vu arriver deux silhouettes bleues. Ah, vous les avez reconnues. Les silhouettes bleues, c'est des Touaregs. Dans le désert, on ne peut pas se tromper. Je les ai vus arriver, comme ça, ils arrivaient vers moi. Et je voyais qu'ils faisaient de grands gestes. Donc, je pense qu'ils parlaient, ils discutaient. Alors, ce qu'ils parlaient, je n'en sais rien. De quoi? Peut-être de leur famille, de leurs enfants, de leur troupeau. Je ne sais pas. Ils avançaient vers moi. Et ils avançaient. Et ils avançaient. Et puis, tout à coup, ils n'étaient plus très loin de moi. J'ai compris que leur conversation commençait à s'envenimer. Ils étaient en colère l'un envers l'autre. Ils étaient en train de se disputer. Et tout d'un coup, il y en a un qui a donné une gifle à l'autre, si bien que celui qui était giflé est tombé par terre. Il s'est relevé. Il a fait un cercle dans le sable. Et il a écrit « Aujourd'hui, mon ami m'a donné une gifle ». Ils ont continué leur chemin, mais cette fois-ci sans dire un mot. Ils sont passés devant moi, mais je me suis retirée derrière ma dune, ils ne m'ont pas vue. Et ils sont allés se baigner un petit peu plus loin dans l'oasis qui était là. Et l'oasis avait beaucoup d'eau, elle était profonde. Et celui qui avait été giflé ne savait pas nager, il était en train de se noyer. Alors l'autre l'a tiré sur le sable et il l'a sauvé. Alors celui qui avait été giflé, celui qui a été sauvé, il a pris une grande pierre plate. Il a pris un couteau dans sa poche et sur la pierre, il a gravé « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie ». Alors l'autre lui a dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Tu matin, tu écris « Mon ami m'a donné une gifle », maintenant tu écris « Mon ami m'a sauvé la vie », explique-moi ». Et l'autre lui a dit « Écoute, c'est très simple. Quand un ami te fait du mal, grave-le dans le sable, car le vent du pardon va passer dessus et plus personne n'y pensera. » Mais quand un ami te fait du bien, grave-le dans la pierre, car ni le temps, ni aucun vent ne pourront jamais l'effacer. Je les ai vus tous les deux repasser devant moi en silence, et je les ai vus disparaître là-bas, au fond du désert, deux minuscules silhouettes bleues. Voilà, mon conte est terminé, qui circule parmi vous et qui circule dans tout le monde.
Merci, merci beaucoup.
qu'est-ce qu'on peut en penser, en retenir de ce conte, même si je pense que c'est dit dedans. Voilà, quand un ami vous fait du mal, il faut laisser le temps que le pardon s'installe, et puis à l'inverse, quand il est là pour nous, important, positivement, voilà, c'est ça à la fin de sa vie, sans doute qu'on de ce dont on se souvient, c'est sans doute ça que ça veut dire.
Je pense que ça veut dire ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle les contes de sagesse, les contes de philosophie aussi, qui sont des contes qui nous apportent des réponses. Hein. Je crois que là, il y a quand même une réponse qui est claire. Hein. Il est très simple, ce conte, mais je trouve qu'il est vraiment magnifique. Mmh. Ouais. C'est un conte Touareg. Hein. Mmh. Oui, c'est un conte Touareg. Hein.
Et vous disiez tout à l'heure que c'était notamment les contes orientaux, notamment du désert ou Les Mille et Une Nuits, on a parlé un petit peu, que vous préfériez par rapport à, vous disiez tout à l'heure que vous étiez corse, ou les contes provençaux ici à Marseille. Pourquoi plus les contes orientaux que d'autres? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Oui. Alors, les contes orientaux, moi je parlerais même des contes extrêmes orientaux. J'ai longtemps vécu en Chine, puisque j'ai été élevée là-bas, et donc j'en ai ramené quand même une manière d'être, hein, voilà, d'une part. Et puis d'autre part, dans les contes chinois, dans les contes d'Extrême-Orient, dans les contes japonais, il y a de très belles choses, des choses très très intéressantes. Et puis alors, il y a aussi en Orient, il y a aussi tous les contes zen, hein, qui sont des tout petits contes qui font une minute, qui font pas plus, mais que de leçons à prendre. Hein. Ensuite, les contes arabes, je vous disais tout à l'heure que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est parce qu'il y a là aussi, il y a toute une histoire, et puis il y a tellement une foule de détails. Il y a de la beauté, il y a de la brillance, il y a des choses comme ça. Et ça, j'aime ça. Moi, j'aime les rois, les reines, les princes. Comment dirais-je? En tant que conteuse, je les vois peut-être pas de la même façon qu'on les voit dans le monde actuel. Un roi, c'est celui qui s'occupe de son peuple, c'est celui qui est sage, c'est celui en qui on peut demander des choses, et c'est celui qui doit savoir répondre. Et je pense que bien des politiques feraient bien d'apprendre quelques contes, ça leur ferait beaucoup de bien. Je crois, hein, j'en suis vraiment persuadée, parce que, bon, vous y êtes comme moi, là, là-dedans. Donc on y est tous, hein, voilà. Et puis... Après, il y a les contes merveilleux, tous les contes de Perrault, les contes d'Andersen. Ça, c'est notre tradition à nous, que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, dans les classes de 6e, on nous le demande, parce que le conte est au programme. Hein. Donc, les enfants de 6e, ils apprennent les contes merveilleux, ils les travaillent. Hein, parce que dans le conte merveilleux, il y a ce qu'on appelle la structure. Cette fameuse structure qui va structurer l'enfant lorsqu'il va apprendre ses contes. Et pour moi, le conte merveilleux, c'est un conte initiatique. Pour les enfants, c'est extrêmement important de savoir les contes, le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant, Peau d'âne, c'est des contes extraordinaires. Hein. Cette peau d'âne qui toute seule est partie pour échapper à l'inceste, le petit chaperon rouge qui va rencontrer le loup, mais qui va s'en sortir. Enfin, tout ça, c'est des histoires qui nous touche énormément, parce que dans notre vie ou dans notre enfance, on va les vivre un jour. On va y aller nous aussi. Hein. Donc il faut savoir comment agir. Hein. Et quand je vois l'histoire de Peau d'âne, qui est une histoire magnifiquement merveilleuse, comment elle a fait? Elle est partie. Elle a tout quitté. Elle a quitté son père, elle a quitté son palais, elle a quitté tout ce qu'elle avait, et elle est partie avec ça. Et ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est lorsque sa marraine, la fée, lui dit « Mais ton coffre te suivra partout où tu seras. Tu n'auras qu'à taper 3 fois sur le sol et ton coffre réapparaîtra. Car n'oublie jamais que tu es une princesse. » Ça, je trouve que c'est... Hein, vous trouvez pas ça merveilleux, mais tu es magnifique.
Thank you. نفسي كطفلي انت بطيبوي.